cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 6 décembre 1993.
Paraît-il qu'il y a une question non écrite qui a circulé parmi vous sur le dernier cours. Alors je voudrais qu'on l'explicite. C'était à propos, vous voyez, des diverses analogies. C'est-à-dire comprendre comment, et ça c'est toujours ce qu'il faut se rappeler, hein, la philosophie première présuppose toutes les autres parties de la philosophie. En acte. Et c'est le propre de la métaphysique, c'est le propre d'une méthode analogique, ça. Dans une méthode univoque, il y a un commencement, il y a un terme. Première année, deuxième année, troisième année. Quand on est dans une connaissance philosophique, on voit les points de départ. Ça, c'est très net. Et on avance progressivement. Quand on avance dans un territoire, tous les autres, c'est clair, c'est curieux. Il y a quand même un ordre, en ce sens que toutes les parties de la philosophie, avant la philosophie première, impliquent une expérience directe, qu'on peut tous avoir, impliquant le jugement d'existence, mais implicitement. Puis on explicite le jugement d'existence. Et à ce moment-là, s'explicite la philosophie première, qui assume tout, puisque l'être est présent dans l'homme travaillant, dans l'homme aimant, dans l'homme coopérant. L'être est présent dans le devenir, l'être est présent dans le vivant. Donc, si l'être est présent, il y a un lien avec la métaphysique. Mais la différence est d'un côté c'est implicite, et d'un côté c'est explicite. Or, les inductions métaphysiques sont rudes. Mont Blanc, l'Himalaya. Hein. Ça, c'est sûr. Mont Blanc, la substance. Parce que c'est rond, vous savez, la substance. Tandis que l'acte, c'est pointu. L'Himalaya. C'est beaucoup plus haut. Il y a tout de suite un regard, on reste pas très longtemps tout en haut. Il y a un regard sur les points, on a tout de suite les modalités. Mais c'est les deux grandes inductions, ça c'est sûr. Ok, il faut tout le temps venir. Il faut dire, je l'ai fait. J'ai fait l'induction de la substance, maintenant ça y est. Mais non, vous ne l'avez pas fait du tout si vous dites que vous l'avez fait. On est en recherche, tout le temps, tout le temps. Le seul repos métaphysique, c'est quand on a découvert l'existence de l'être premier. Alors le psaume 94 est là pour nous rappeler que le repos, hein, c'est pour ceux qui ont été fidèles. Hein. Fidèles à la métaphysique, fidèles à la philosophie. Et pour Aristote, ça a 45 ans qu'on arrivait à être métaphysicien. 45 ans, vous voyez, vous n'êtes pas grec. Les Grecs avaient une subtilité particulière. Nous, on est encombrés par l'industrie, par l'économique. Il y a des poids lourds, lourds, lourds. On est des gros avions remplis de pétrole, de benzine, tout ce que vous voulez. On n'arrive pas à décoller, quoi. C'est le commerce aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de point de départ de la métaphysique par le commerce. Curieux, ça. Oui, le travail, source du commerce. Et quelquefois, même le travail disparaît, il n'y a plus que les spéculations, les grands voltigeurs. Alors, vous voyez, c'est présent. Donc, je dois pouvoir découvrir dans toutes les inductions analogues. à celle de la substance, quelque chose qui m'aide à découvrir la substance. Je ne l'ai pas écrit, ça. Mais je vous le dis. C'est peut-être pour ça que c'est moins net que... Puis j'ai voulu aller assez vite, parce que ce serait très long de faire ça. Ce serait très intéressant. Si on avait le temps, on le ferait. C'est les parrains qui doivent faire ça. Les parrains doivent faire ça. Petite enquête, très bon. Quand il s'agit de la découverte de l'aïdos, c'est facile. Si toutes les réalités étaient des réalités artistiques, l'aïdos serait substance. Parole d'Aristote. Si toutes les réalités étaient en devenir, la substance serait la nature. Si toutes les réalités se ramèneraient à l'agir moral, si l'agir moral était l'être, prenez l'intuition de Blondel. C'est un peu ça. Alors à ce moment-là, on pourrait dire, voyez, que la substance serait quoi? Le bien finalise. Le bien détermine. Alors est-ce que ce serait l'amitié? Le bien en tant que réciproque. Mais c'est pas si commode que ça, préciser tout de suite, ce qui prouve qu'au fond, la métaphysique n'est pas suffisamment en acte dans mon éthique. Autrement, je verrai tout de suite. Je vois tout de suite le parallélisme entre l'aïdos et la substance. Je crois ça. On voit tout de suite cause exemplaire. C'est plus facile parce que c'est la cause exemplaire. Tandis qu'en éthique, tout est vu du côté de la finalité. Alors la cause de détermination devient seconde. Et c'est très gênant pour la substance. Dans l'acte moral, l'aspect substantiel est relativisé par la finalité. C'est ce qui fait que les êtres qui ramènent tout à la morale ont tellement de peine de comprendre ce qu'est la substance, source d'autonomie. Et pourtant, l'autonomie est présente dans l'acte moral, mais tout de suite est passée. C'est toute la différence entre l'acte moral et la psychologie. Le psychologue aime de rester dans le point de vue de l'autonomie. Alors vous voyez, l'autonomie serait sûrement l'aspect de l'autonomie dans l'acte moral. Or, à quel moment l'autonomie dans l'acte moral apparaît surtout? Et c'est par des choses comme ça que vous trouvez le lien. C'est le choix de l'ami. Le choix de l'ami est analogue, voyez, en éthique, à la substance. Alors, le choix de l'ami, c'est le bien que je choisis. Vous ne le trouvez pas du côté de la finalité pure, mais du côté du choix. Parce que du côté du choix, l'aspect formel réapparaît très fort. Alors, il y avait une question qui était posée là-dessus. Oui.
La dernière fois, vous aviez dit que le bien existait et qu'il impliquait la qualité.
Et qu'il avait ?
Qu'il impliquait la qualité.
Oui, dans le choix.
Et que c'était la qualité qui était l'analogue de la
substance. Voilà. Dans le choix. Elle a rajouté tout de suite dans le choix. Vous voyez ? Le choix lie la personne à la qualité. Lie le bien personnel à la qualité. C'est comme ça que se fait le choix. Je te choisis pour être mon ami, parce que tu es très intelligent. Je te choisis pour être mon ami, parce que tu es une bonté infinie. Je te choisis pour être mon ami, parce que tu as de beaux yeux. Tu es fleuve comme une colombe. Vous êtes extraordinaire. C'est beau ça que tu es mon ami. Vous voyez la qualité qui apparaît liée à la substance. Alors, il y avait une autre question. C'est très important, vous voyez, savoir, c'est excellent comme gymnastique philosophique. Vous voyez, ça c'est excellent. Ça brûle tout. Puis alors, tiens, on voit les ramifications. Et ça donne une richesse extraordinaire à l'induction de la substance. Elle porte tout ça au niveau de l'être. Alors, comprendre que l'âme est source d'unité d'être entre l'âme et le corps, suffit-il à découvrir quelle est substance? Faut-il d'abord manifester qu'elle est première dans l'ordre de l'intelligibilité, comme dans l'ordre de l'exister, et qu'elle résorbe ainsi la dualité nature humaine exister, c'est-à-dire la dualité fondamentale entre ce qui, dans l'être de Pierre, est en commun avec nous, nous autres, et l'acte d'être de Pierre. Alors, comprenons bien. L'induction de l'âme se fait au niveau de la vie, de mes opérations vitales. J'ai pris mon petit déjeuner ce matin. Avant, je m'ai fait oraison. Avant, je dormais. J'ai vécu la prière liturgique. Tout ça, c'est des actes de vie, j'espère. Le C me verrait. À quel moment avez-vous découvert le C me verrait? Normalement, vous le découvrez au moment où ça sonne l'heure. Alors, le C me verrait à ce moment-là est victorieux du poids de la nuit. Le C me verrait peut n'être pas victorieux, et à ce moment-là, on se serre du bras coupable de la paresse qui dit au réveil, tais-toi. Et le sème avéré continue dans une douce passivité de celui qui dort. Et le sème avéré se réveille une heure après. Et on se dit, oui, j'étais très fatigué. Et cela donne toutes les absolutions. J'étais très fatigué. Vous voyez, le sème avéré. Bon, j'énumère, vous pouvez le faire chaque jour, d'un petit examen philosophique, énumérer tous les sèmes avérés de votre journée. Toutes vos actions morales, toutes vos actions vitales, toutes. Et toutes ces actions vitales relèvent de vous. C'est moi, mon je suis. C'est moi qui dors. Vous le dites quand vous vous réveillez, puisque la puissance est consciente par l'acte. C'est en vous réveillant que vous avez dit que vous avez bien dormi. C'est jamais en dormant. Donc votre jugement sur le sommeil n'est jamais direct. Vous savez jamais si vous avez bien dormi. C'est une manière de se consoler. J'étudie, je travaille intellectuellement. Je travaille matériellement. Je compte les sous de la communauté. C'est un travail. Je vois les dépenses, les creux. Je fais la cuisine. Toutes les activités de la journée, toutes impliquent une unité. Dans cette diversité, il y a une unité. D'où vient cette unité? Pourquoi cette unité? Pourquoi cette unité? Qu'est-ce qui fait cette unité? C'est ça qui est intéressant à voir. Qu'est-ce qui fait cette unité? Il y a quelque chose. Et elle réapparaît dans le moi. Donc vous voyez, vous induisez l'âme à partir des opérations vitales. Et vous induisez l'âme comme source de toutes ces activités vitales. Comme principe de toutes ces activités vitales. Principe propre de toutes ces activités. Ou principe fondamental, c'est plus juste. opérations vitales. Ensuite, vous réfléchissez, vous dites, mais quel lien entre mon exister et ma vie? Est-ce que je peux séparer les deux? Est-ce que quand je dors, je ne vis plus et j'existe? Ah, c'est merveilleux, la métaphysique, il s'agit de dormir. Dès que je dors, j'existe, mais je ne vis plus. C'est ça la métaphysique. Je nie tous les vivants et apparaît l'être. Ça, c'est du Heidegger. Et c'est aussi, certaine manière, Freud. Puisque pour Freud, le sommeil est plus important et plus fondamental que la conscience. La conscience, c'est la conscience du devoir. Kant, vous voyez comme il est marqué par Kant. C'est la conscience du devoir. Et quand je dors, c'est la conscience de la détente. Il n'y a plus d'autorité. Je suis seul. Je suis complètement autonome quand je dors. Parce que le prieur dort aussi. Je suis complètement seul. Le père maître encore plus. Alors, complètement seul. C'est merveilleux d'être seul. Plus d'autorité. Donc, c'est la conscience du plaisir. Voyez Freud, il faut saisir ça psychologiquement. Il y a quelque chose de juste, psychologiquement. C'est fondamental l'être. C'est vrai, quand je dors, j'existe. Et j'existe à l'état pur. Je ronfle. Donc, j'existe à l'état pur. Vous allez mettre la propriété de l'être, c'est de ronfler. Voilà où l'on en est aujourd'hui. Vous voyez que c'est faux. J'espère que vous le voyez. Qu'en réalité, quand je dors, je suis un vivant qui se repose. Donc qui n'est plus entièrement lui-même. Et c'est la différence entre la conception du sommeil chez Freud et la conception du sommeil chez Aristote. Il n'y a pas beaucoup de philosophes qui ont fait la philosophie du sommeil. Faites-le, c'est très vite fait au point de vue enquête. Et c'est très intéressant. Il y a deux philosophes, Aristote et Freud. C'est pour ça qu'ils tiennent. Et quand vous dialoguez avec les psychanalystes, commencez par le sommeil. Parce que là, il y a un contact. Pas par la finalité, tout à fait autre chose. L'un, c'est le conditionnement pur. Et l'autre, c'est la finalité. Pas pur, mais assumant le conditionnement. Pour Aristote, quand l'être vivant, qui est l'homme, dort, il s'abandonne à l'univers. C'est très joli. Vous voyez ? Il revient partie de l'univers, comme un animal. Pour Freud, quand l'homme dort, il est parfaitement lui-même. Conscience du plaisir. Et veut rattraper tout ce que l'homme vertueux et conventionnel l'oblige de faire pendant toute la journée. Dans l'écriture, hein, c'est durant la nuit que se font les rapines. Les fils du vieux de Élie, le vieux prêtre. Alors pendant la nuit se font les rapines. Et les rapines, c'est d'aller regarder dans les victimes offertes tous les bons morceaux de graisse et les prendre et les manger. Vous voyez, au fond, Freud, là, il y a ça. Pendant la nuit, l'individu reprend tout ce qui, pendant la journée, n'a pas pu de prendre pour lui. Il a vécu pour un autre le devoir. Et pendant la nuit, il se reprend. Mais comme c'est curieux, hein. Et ça, c'est très intéressant à voir. Parce que ça me donne tout de suite la grande vision freudienne, la grande vision aristotélicienne. Si je dors, c'est à cause de mon corps. Donc, il y a quelque chose de juste, voyez, dans Freud. C'est à cause de mon corps. Donc, c'est mon conditionnement que j'ai forcé toute la journée. Toute la journée, j'ai lutté contre mon conditionnement. Si je suis un homme vertueux, si je suis un homme conscient, j'ai lutté contre mon conditionnement. Évidemment, si je n'ai plus lutté contre mon conditionnement, je dois réveiller. Celui qui ne lutte plus contre son conditionnement, qui vit au niveau psychologique, il doit réveiller. Parce que justement, laisser le conditionnement, ça c'est le sommeil. On redevient partie de l'univers. Et on est sous le point de vue de l'univers. Oui, c'est très très joli ça. Ça nous aide à comprendre comment on induit l'âme, source du sommeil aussi, mais l'âme qui a compassion pour le corps. C'est comme ça quand vous travaillez énormément le soir. Vous êtes très fatigué, vous luttez contre le sommeil. À un moment donné, vous dites, il faut avoir compassion quand même pour ce pauvre animal qui est mon corps. Cet âne, mon frère l'âne. On se repose. Parce que vous avez compassion de votre corps. Si votre corps n'était pas là, vous n'auriez pas besoin de dormir. Vous dormez à cause de votre corps. Alors considérez le sommeil comme la chose principale. Vous voyez ce que ça fait. C'est la vie végétative. Et le sommeil laisse la vie végétative être dominante. Pendant la journée, la vie végétative n'est pas dominante. Normalement, on ne bâille pas toute la journée. La vie végétative n'est pas dominante, on n'est pas tout le temps au réfectoire. On l'est par moment. La vie végétative est au service de la vie sensible, de la vie intellectuelle, du travail. Tandis que quand on dort, ah, merveille, on laisse la vie végétative dominer. C'est ça la conception de Freud, si on la regarde bien, attentivement. C'est une chose très très curieuse, et c'est intéressant du reste, de regarder les deux qui s'intéressent au rêve, Aristote, Freud, dialogue entre les deux. Dans le ciel, ils doivent se regarder. La part de vérité d'Aristote, la part de vérité de Freud. Il y a une part de vérité. Aristote dit quelque chose de beaucoup plus fort. C'est vrai, je suis parti de l'univers par mon corps. Si je suis parti de l'univers par mon corps, quand je suis fatigué, combien, ça qui est extraordinaire, combien la personne humaine est saisie uniquement en réalité du côté de ses fonctions. On ne voit rien d'autre. On ramène, je viens de dire un article dessus, on ramène l'affirmation in persona Christi à la fonction. Moi, du théologique. Parce qu'on ne saisit plus ce que c'est que la substance. On ne saisit plus ce que c'est que la personne. Et on dit que dans tous les sacrements, quand je donne le baptême, j'agis in persona Christi. Exactement comme pour l'Eucharistie. Pas la même chose être ministre du Christ pour le baptême et de l'être pour l'Eucharistie. Mais si je prends une personne à Christi, la personne uniquement au niveau de la fonction, j'agis au nom du Christ. C'est vrai. J'agis au nom du Christ dans le baptême. J'agis au nom du Christ. Mais alors on confond agir une personne ecclésiée et une personne à Christi. Et on ramène in persona Christi à in persona ecclésiae. Et tout ça, quand quelqu'un qui dit ça, en disant c'est un théologien, pourquoi il dit ça? Un manque total de métaphysique. Et je suis uniquement au niveau psychologique. C'est extraordinaire, ça. Et dire ça calmement, ça me semble. Attention, le in persona Christi, dans le point de vue de l'Eucharistie, n'est pas médialisé par l'Église. Alors, on ne toucherait jamais directement Jésus. Vous voyez, je dis ça, c'est pour que vous compreniez ce que nous faisons comme effort. C'est capital pour faire de la théologie ensuite. Autrement, c'est la psychologie qui l'emporte. Et vous n'avez plus alors que le point de vue de la représentation et le point de vue de la fonction. C'est pour ça que j'insiste. Une fois que vous aurez fait l'induction de la substance, vous serez intelligent. Parce que vous aurez touché l'être, vous aurez atteint l'être dans ce qu'il a premier. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, vous tournez autour. Alors, prenez ce métaxu qui est plus facile, l'arme. Puisque j'ai le droit, j'ai parfaitement le droit. La philosophie première présuppose la philosophie du vivant. Dans la philosophie du vivant, la première chose que je fais, c'est découvrir l'arme. Puisque mon corps n'a pas d'intelligibilité propre par lui-même. Le corps en soi, ça n'a pas de sens. Parce que le corps est toujours tout entier relatif à l'âme. C'est comme la matière, si vous voulez. La matière en soi, ça n'a pas de sens. La matière est déterminée par la forme. Une fois que j'ai découvert l'âme, je peux comprendre alors la différence qui existe entre ce premier qui est dans l'ordre de la vie et ce premier qui est dans l'ordre de l'être. Et comme pour moi, la vie, c'est l'être. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de séparation. Ma vie, c'est mon être. Il y a une distinction formelle. Il n'y a qu'en Dieu où être et vie s'identifient pleinement. Mais voyez, les théologiens parleront non pas de l'âme, Dieu, mais de la substance. Ça aussi, c'est très curieux. Pourquoi les théologiens, Thomas d'Aquin ne parle jamais de l'âme de Dieu. Il parle de la substance. Alors si je dégringole dans la psychologie, je parlerai de l'âme de Dieu. La substance, ça ne me dit rien. Je parle de l'âme de Dieu. Pourquoi? immanente au corps. Elle est dans le corps. Elle n'est pas séparée. Elle est au-delà. Elle peut agir au-delà du corps, mais elle n'est pas séparée du corps. Et donc, si la vie est immanente, je ne peux pas découvrir la transcendance de Dieu à partir de l'immanence de la vie. Ce serait tellement agréable de pouvoir découvrir Dieu par la vie. Vous voyez, c'est là où Saint-Augustin n'est pas très précis. Et c'est pour ça que Saint-Thomas ne prend jamais comme point de départ de la découverte de Dieu une expérience interne, celle de l'amour, celle de la recherche de la vérité. Ce que fait Augustin, Saint-Thomas ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que je risque de rester dans l'immanence de la vie. Et dans l'immanence de la vie, vous ne découvrirez pas Dieu. tout ce qui est dans la substance est indivisible. La substance est une dans l'ordre de l'être. Elle est première. Donc elle est simple, puisque le privilège du premier, c'est la simplicité. Donc la substance est simple, indivisible, dans l'ordre de l'être. C'est comme un noyau. C'est comme un noyau. Et fondamental. Je peux. Yeah.